voix nue. Cette semaine, Antoine Beauchamp rencontre Patrick Chauvel. Ce soir, interpellé et non choqué.
Bonsoir Patrick Chauvel.
Bonsoir.
Depuis le début de la semaine, on parle de votre expérience de photographe de guerre. On a compris par toutes les anecdotes savoureuses que vous nous distillez au long de ces entretiens que vous avez eu 1000 vies. C'est très compliqué de circonscrire 1000 vies en 5 fois une demi-heure d'entretien. Je vous propose ce soir qu'on théorise un petit peu. Vous n'avez pas l'habitude d'intellectualiser votre métier. Mais j'aimerais commencer par une question. Quelle vérité a la photographie que n'ont pas d'autres moyens de transmettre la guerre?
La photographie, c'est un instantané, c'est un moment, donc c'est à la fois très précis et ça donne une image. Enfin, si le photographe est suffisamment bon, ça résume une situation. Mais en même temps, il y a aussi l'envers de la médaille, c'est-à-dire que ça ne montre qu'un instant et qu'un seul cadre. Et il peut se passer quelque chose à gauche, derrière, à droite, que le photographe ou ne voit pas ou décide de ne pas montrer. Hein. Donc on photographie toujours avec son background d'éducation, sa sensibilité, etc. Donc c'est jamais que l'interprétation du photographe, du journaliste, du témoin. Mais c'est pas très grave parce que c'est un instant et en fait c'est comme si on parlait en morse. Ce sont des morceaux d'histoire qui vont être rassemblés et décodés à l'arrivée par les rédacteurs en chef qui eux-mêmes vont mettre ça dans les journaux et ce sera là aussi décodé par les lecteurs. C'est la fameuse question qui fait le kiosque. C'est le lecteur du journal ou c'est le journaliste ou le rédacteur en chef. Mais tout ça n'est pas très grave parce qu'en fait, ça donne le choix aux gens. Parce qu'évidemment, je ne suis jamais le seul photographe sur un terrain. Il y a un photographe en face avec les autres. On va les appeler les autres. Il y a plusieurs photographes de chaque côté avec leurs sensibilités différentes. Il y a les journalistes locaux qui font des photos. Donc tout ça fait beaucoup d'informations qui arrivent, qui sont rassemblées à la rédaction des grands journaux, des grands magazines, qui eux-mêmes, avec leur éducation et leur sensibilité politique, vont faire les choix en rajoutant évidemment un papier. Et ensuite, il va y avoir plusieurs journaux de plusieurs tendances dans les kiosques, et les gens feront leur choix aussi. Donc finalement, l'information, elle passera. Hein. Mais sans ça, oui, pour résumer une photo, c'est un instant précis, quoi. Pour exemple, on parlait l'autre jour de la photo du Vietnam et la puissance de l'information sur l'opinion publique américaine. Le général Loan qui tue ce civil, qui a été interprété d'une certaine manière, il y a eu un film de cette exécution. Personne s'en souvient. Le film est passé, mais un film ça passe, une photo ça reste. Et c'est ça la force de la photographie, c'est que ça imprime l'imaginaire des gens. Après, encore une fois, on ne contrôle pas ce que ça provoque chez eux. Et le danger dans ce métier, c'est une photo hors contexte. Mon fils Antoine Chauvel, qui à un moment donné était resté sur le front très longtemps, enfin assez longtemps à Mossoul, et il est tombé sur un type qu'on traînait par terre avec un câble électrique autour du cou, à moitié nu, qui allait être exécuté. Il a fait la photo, qui est une photo très forte, qui montre l'horreur de la guerre et comme les hommes deviennent fous hein, à un moment donné. Et il m'a montré cette photo, mais il était content d'avoir réussi à faire une photo très forte, symbolique de l'horreur. Il avait eu du mal parce que les types l'avaient braqué. Il voulait lui prendre son appareil photo, il voulait lui prendre sa carte mémoire. Il a réussi un tour de passe-passe, il a réussi à garder la carte. Il m'a dit, je l'envoie. Je lui ai dit, attends, réfléchis, parce qu'effectivement, c'est un scoop. Il y avait très peu de photos des exactions. Seulement, en regardant l'uniforme, la Golden Division, qui avait été formée et entraînée par les Américains, qui libérait Mossoul, avait perdu à peu près 60% de ses hommes pendant cette libération, mais avait plutôt fait du bon boulot si on se place... pour finir la mainmise de ISIS, de Daesh, sur cette ville qui torturait, exécutait les gens. Une photo comme ça allait foutre leur réputation en l'air, allait pratiquement détruire le côté victorieux. Et en regardant bien l'uniforme, ce n'était pas les gens de la Golden Division qui traînaient ce type, c'est des unités qui sont arrivées après, et c'était même des miliciens. mais en tenue camouflée. Il fallait regarder l'insigne et puis regarder les chaussures. Les types étaient en tongs au lieu d'être en Rangers. Mais le grand public va pas s'arrêter à ça. Le grand public, hors contexte, il va dire, ouais, ils ont libéré la ville, mais c'est quand même des salauds qui font des exécutions sommaires. Et donc, je lui ai dit, cette photo va faire plus de mal. Ce serait bien de la retenir. Alors, c'est dur pour un jeune photographe qui veut faire sa réputation, parce qu'il n'y a pas que l'information, le journalisme pur et dur. Il y a aussi la carrière d'un photographe et son ego, son envie d'être connu, etc. quand il est jeune. Mais il m'a écouté. Et la photo est sortie après, parce qu'après, elle sort avec une explication, pas à chaud. Et le thème, c'est la guerre, l'horreur de la guerre, la vengeance entre sunnites et chiites. Donc à ce moment-là, elle peut passer. Le danger, c'est le scoop. C'est l'envie de faire un scoop. Et c'est ça que j'essaye de transmettre. Alors c'est à chaque fois, on me répond, oui, mais c'est facile pour toi, parce que t'es déjà connu. Je dis, ben oui, je sais, mais très vite, moi, j'ai eu la chance de rencontrer des photographes comme Larry Burrows qui m'expliquaient. Et on a fait un film avec Antoine Nova, qui est un jeune réalisateur.
Rapporteur de guerre,
où justement Larry Burrows parle, c'est peu de temps avant sa mort, où il dit « Je suis toujours gêné d'avoir l'impression de bénéficier du malheur des autres en faisant des photos du malheur et de l'horreur. Mais je pense que ça se justifie parce que je suis le témoin de ce qui se passe et peut-être que ça peut changer les choses. » Il se pose la question. Et il m'expliquait qu'il fallait faire très attention. Il faut faire très attention à ce qu'on fait, quoi.
On perçoit bien, Patrick Chauvel, dans ce que vous dites, la responsabilité que vous portez sur vos épaules, la charge que vous portez sur vos épaules quand vous êtes sur un terrain de guerre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une bonne photo de guerre, une photo de guerre responsable qui transmet l'histoire à laquelle vous assistez?
Bah, c'est la photo qui va résumer la situation. Alors après, comme exemple, je peux donner... quand il y a eu l'exécution de l'archevêque Romero au Salvador en 1981, il y a eu son enterrement. Et le jour de l'enterrement, il y avait la cérémonie à la cathédrale del Mundo à San Salvador. Il y a à peu près 80 000 civils qui sont venus sur cette place, devant la cathédrale, des prêtres du monde entier, des journalistes du monde entier. Et au milieu, j'avais remarqué qu'au milieu de la foule, il y avait des types avec des flingues planquées dans des sacs. C'était les rebelles, en fait. Et à un moment donné, il y a eu une provocation. On ne sait pas trop. Je suppose que c'est Arena, c'est-à-dire l'extrême droite. Donc des flics en civil du mouvement La Main Blanche qui ont tiré sur la foule. Il y a eu un mouvement de panique, il y a eu une réplique, évidemment. Donc en quelques minutes, cette place de 80 000 personnes s'est vidée. Il ne restait que des cadavres, des chaussures et la panique. Et j'avais fait une photo où on voit les gens qui transportent les blessés et les morts. Il y a des chaussures partout. Et je suis face à l'église. Il y a un type qui est en premier plan, qui tire au pistolet, qui réplique, qui est un rebelle. Et sur le mur, sur la façade de la cathédrale, il y a le portrait de Romero. Il y a tout dans la photo. On pourrait dire, j'ai pas fait exprès, mais j'étais placé au bon endroit, en tout cas. Voilà, et j'ai eu le réflexe. Schendorfer, à un moment donné, m'avait demandé de lui faire un tirage d'une photo où j'ai un petit chat qui passe devant un gros blindé.
L'une de vos photos les plus célèbres, au Liban.
Voilà, devant un blindé au centre de Beyrouth. Et j'avais dit, cette photo est extraordinaire. J'avais dit, mais j'ai eu de la chance, Pierre. Il m'a dit, non, t'as pas eu de la chance, parce que si t'avais pas été un professionnel de la photo, t'aurais vu passer le chat et t'aurais fait « Ah !» et t'aurais appuyé après, tu l'aurais pas eu. Donc la chance, c'est quand l'opportunité rencontre le professionnalisme. Un photographe, avant tout, c'est ça. C'est un type qui observe, qui voit et qui appuie au bon moment. Mais encore une fois, le bémol, c'est qu'il a aussi sa sensibilité. Par contre, il faut toujours un journaliste qui vient de l'étranger, parce qu'on est moins concerné par le problème politique, en tout cas.
Il y a une forme de neutralité.
On essaye. On n'est pas forcément neutre, hein, quoi. Quand les Russes bombardent des hôpitaux, c'est difficile de se dire neutre. Hein. Bon, il y a un enfant à un moment donné en Syrie qui était mourant, qui m'a interpellé en arabe. Et il a demandé à me parler. Le médecin m'a fait signe qu'il pouvait rien faire pour lui. Et l'enfant m'a montré du doigt en disant quelque chose et j'ai fait traduire. Il a dit, je vous préviens que je dirai tout à Dieu de ce que vous nous avez fait à nous les enfants. C'est difficile de traduire ça en images. Mais ça m'a travaillé, c'est-à-dire qu'après, on a cette responsabilité d'en vous parler, pas seulement vis-à-vis du public ici, mais aussi c'est les victimes qui nous font confiance. Ne pas avoir de talent, c'est trahir les gens qui se confient à nous. Donc c'est une profession où il faut être bon, quoi. Il faut vraiment être bon. Sans ça, c'est pas la peine d'y aller. On peut pas aller sur un terrain de guerre pour apprendre la photo. Alors je devrais pas dire ça, parce que quand je suis arrivé au Vietnam, j'y connaissais rien. Mais c'est ce que j'ai appris après. Donc j'essaie aujourd'hui de dire aux jeunes photographes, soyez bons à être sûr d'être bons. Parce que c'est un privilège que les gens vont vous donner, ils vont s'ouvrir à vous. Parce que contrairement à ce qu'on pense, on est bien accueillis sur les terrains de guerre. Bon, il y a bien sûr des gens qui veulent nous tuer parce qu'ils voudraient pas qu'on soit là. Mais la plupart des victimes se sentent moins seules quand on est là. Moi, je vois, quand je vois Rémi Urdan ou Adrien Joulm, l'un du Monde, l'autre du Figaro, avec leur, qui sont penchés sur ces gens et qui, surtout Rémi qui est très grand, et qui les écoutent, les gens parlent. Les gens se sentent mieux, ils se sentent moins seuls. Et après, c'est le talent de l'écrivain qui va transmettre et intéresser les gens. Parce qu'en fait, on n'est pas là pour choquer, on est là pour interpeller. Et il y a une ligne très fine entre les deux, surtout en photo.
Vous parliez de l'instantanéité de la photo. À partir de 1996, à partir de la guerre en Tchétchénie, vous avez non pas délaissé la photo, mais vous êtes passé à la vidéo. Alors pourquoi être passé de l'image figée sans son à l'image en mouvement avec le son?
Alors il y a deux raisons. Il y en a une première, c'est que j'ai été viré de Sigma en 96.
Juste avant de recevoir le World Press, qui est quand même l'équivalent du Nobel de la photo, ce qui est assez cocasse quand même.
Oui, ça, le patron savait pas, il m'aurait viré après sans ça. Il y avait une grosse pression sur les agences, hein, ça commençait. Et donc Sigma avait été vendu à je ne sais pas qui d'ailleurs, parce que enfin à des gens qui n'étaient pas de la presse, qui étaient des gens d'argent. Donc ils ont fait un audit et évidemment les photographes de guerre sont en rouge. Ça rapporte pas d'argent, ça coûte cher de faire un reportage de guerre, ça dure longtemps. C'était très simple, hein, je veux dire, 3 mois en Tchétchénie coûtaient tant, il y avait tant de ventes, je devais plus que à l'agence. Donc j'avais un manque à gagner tous les mois. Donc évidemment, quand il y a eu l'Audimat, ça a flashé en rouge sur mon nom, et ils ont dit, on va pas le garder. Alors c'est dommage, parce qu'effectivement, il aurait attendu 3 semaines. À Amsterdam, quand le type m'a présenté, au moment où il a dit photographe à Sigma, je l'ai bloqué en disant photographe viré de Sigma. C'est un peu coincé, quoi. Et quand j'étais à Perpignan, il y a un badge à Perpignan, j'avais fait mettre licencié. Parce qu'il y avait le nom des journaux en général.
Ouais.
Et donc je me suis retrouvé dans la merde, parce que j'avais pas d'argent. Une réputation qui n'était pas forcément donnée envie à des rédacteurs en chef de m'engager dans un journal, parce que une des excuses de l'agence avait été que j'étais ingérable. Alors la patronne de Sigma, Eliane Lafont, Sigma New York, avait dit, mais c'est justement pourquoi, cette raison-là pour laquelle il est précieux. C'est-à-dire qu'il prend des initiatives, il décide d'aller dans un pays alors qu'on lui dit non, et ça pète à ce moment-là, laissez-le faire, quoi. Et en fait, un ami que j'ai connu, qui était photographe à François avec moi quand j'avais 18 ans, qui s'appelait Tony Comiti, qui avait été caméraman ensuite, après avoir été photographe et avait monté sa boîte de prod, m'a appelé en disant, écoute, si t'as des idées, on fait des films ensemble. Et ça a commencé comme ça. L'autre raison, c'est que j'avais observé, parce que je filmais avec une petite caméra, pour la télévision américaine, qu'il y avait plein de scènes qui étaient absolument irracontables en photo, quoi. Il fallait du son. Notamment quelque chose sans son aussi. J'ai des types qui jouent aux échecs, amenés au milieu des ruines, donc ça fait une photo extraordinaire. Mais ils jouaient aux échecs dans le silence, et de temps en temps une bombe tombait, et le type restait le bras en l'air, avec un air un peu agacé, parce que ça l'empêchait de réfléchir, et il continuait à jouer après. Cette espèce de moment de silence et cette petite explosion derrière, ça changeait tout. Donc du coup, je suis tombé amoureux du son, en fait, sur une image. Et je me suis dit, bon, bah, il faut faire les deux. Alors, c'était un peu compliqué au début, parce qu'en fait, quand on essaye de faire les deux, on est mauvais dans les deux. Alors maintenant, c'est plus facile, parce que la technologie a tellement progressé. Maintenant, il y a tout en un. Et je pense que bientôt, il y aura un être bizarre, qui sera ni photographe ni caméraman, mais qui filmera, et qui ensuite regardera les images une par une, et sortira une photo du film.
Captera des instantanés, oui, dans ses vidéos.
Et ça, c'est facile à faire aujourd'hui. Et la qualité sera suffisamment bonne. Donc les photographes deviendront un peu ce que les peintres de marine étaient devenus à un moment donné. C'est-à-dire, il y avait des photographes. Mais la marine, la dernière fois qu'il y a eu ça, c'était aux Malouines. Les Anglais avaient emmené en opération, sur cette grosse opération au Falkland, une artiste punk. C'est complètement délirant parce qu'il était au milieu des Royal Guards et de toute l'armée anglaise, avec tous ses principes et ce côté comme ça très strict. Au milieu des combats, cette fille qui faisait des croquis, et c'était une commande de la marine anglaise, et elle a fait donc sur ses croquis, basé sur ses croquis, des grands tableaux qui sont à Londres. Ils sont magnifiques, des huiles, quoi. Elle résumait l'histoire comme ont fait les grands peintres sur les batailles de Napoléon. Et donc le photographe qui restera, il faudra qu'il soit excellent, mais il y aura toujours le type exceptionnel, comme il y a déjà. Vous avez déjà James Nashtway, qui est un photographe exceptionnel entre reportage et artiste. Alors évidemment, il y a toute une polémique là-dessus. Il y a Gilles Pérez, qui lui part sur les mêmes coups que nous, mais pour l'UNESCO, pas du tout pour la presse. Ah, il vend à la presse, bien sûr. Mais parce qu'il a une approche très personnelle, très artistique, très profonde, très réfléchie. Donc il y a les reporters photographes et il y a les photographes artistes qui font du reportage. Et à un moment donné, voilà, c'est ça, ça va être ça la différence. On va servir le matériel extraordinaire qu'on a sous la main. J'imagine, si j'avais eu ça au Vietnam, d'abord j'aurais pas raté mes photos. En plus, vous pouvez faire 1000 photos et en choisir une seule et la recadrer et vous êtes bon, quoi. Alors ça, c'est formidable parce que ça facilite les choses. C'est plus petit, c'est plus discret. On peut envoyer tout de suite, on peut recadrer, on peut changer, on peut filmer. Et en même temps, l'augmentation de la qualité du matériel a, inversement, professionnellement, a fait une paupérisation du métier aussi. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui se disent photographes et qui ne le sont pas, en fait. Et du coup, il y a un peu un surnombre de gens sur le terrain, surtout quand c'était le printemps arabe, comme on a dit. Il y a beaucoup de jeunes qui sont partis en Tunisie, en Égypte, etc., parce que c'était pas loin. Et ça a été très dangereux, parce qu'en fait, d'abord, quand il y a trop de journalistes, ça agace. Et puis, plus il y a de monde, plus il y a de risques que les gens soient tués. Et surtout, il y a eu quelques grands photographes qui sont sortis de là, parce que chaque guerre ou chaque événement fort révèle un talent. Seulement, ils ont cru qu'ils étaient photographes de guerre. Et du coup, ils sont partis à la guerre. Et ils ont été tués. Et malheureusement, cet engouement pour ce métier, le côté romantique, etc., qui pouvait tenir, résister à l'événement, à la réalité sur une place, avec des gens qui chantent, avec un mouvement fort, ne tient pas la route sur une guerre où c'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus dangereux, et il y a des gens qui se sont fait piéger, quoi. Mais il y a eu un engouement, c'est-à-dire que le métier a été victime de son succès, en fait. Les gens, ça les faisait rêver, comme moi j'ai rêvé avec Kessel, Schindorfer. Ça les faisait rêver de partir à l'aventure. Et puis, ils se sont heurtés à une réalité. La blessure, handicapante, qui fait mal ou qui fait peur, évidemment, hein, la peur est là. La réalité économique, une catastrophe. La réalité de la vie quotidienne, catastrophe aussi. Parce que, voilà, les gens vous attendent jusqu'à un certain point. Et le traumatisme en rentrant. Enfin, ça fait beaucoup de choses d'un seul coup qui sont beaucoup moins romantiques, quoi. Ben oui, tout ça pour finir par dire vous avez un petit rectangle qui va résumer une situation. Mais il faut savoir ce qu'il y a derrière, quoi. Et la caméra, elle donne la parole, elle donne le son, elle donne le mouvement. C'est génial comme outil, quoi. Mais j'aime bien la photo, quand même.
Patrick Chauvel, vous évoquez l'évolution de ce métier. En 50 ans de conflits dans lesquels vous vous êtes rendu, comment vous avez vu évoluer la guerre ?
Oh, la guerre, je ne l'ai pas vraiment vu évoluer, hein. Ouais, c'est pas... Enfin, Oui, je vois pas de grosse différence, à part récemment Daesh, où là il y a vraiment quelque chose de crado, quoi. C'est sans pitié, quoi. C'était d'abord la première fois que je voyais des gens qui décapitaient des enfants, assassinaient des gens parce qu'ils étaient homosexuels, tuaient des femmes parce qu'elles étaient trop jolies, en faisaient des esclaves sexuels. Je veux dire, à cette... Si peut-être que les nazis ont fait ça, enfin pas peut-être d'ailleurs, pendant l'opération Barbarossa, en 41, en juin 41, quand ils ont décidé de déshumaniser les Russes dans leur propagande... C'est-à-dire qu'ils ont tué tous les juifs, tous les paysans, tous les commissaires politiques. Enfin, ils avaient réussi dans la propagande à déshumaniser la population entière russe. Mais moi, j'ai pas vécu ça, évidemment, mais je l'ai lu, et mon père m'en a parlé. C'est la première fois que sur une guerre, les civils sont tués sciemment, pour des raisons qui ne se justifient absolument pas. Il y a une espèce de sauvagerie stérile, enfin c'est terrible de voir ça, et les femmes font partie de ça aussi, c'est-à-dire que c'est la première fois que je rencontrais des femmes habillées en noir qui continuaient à être agressives alors qu'elles étaient prisonnières, en disant que le Bataclan c'était bien, qu'il fallait continuer, que enfin donc ça c'est nouveau, puis en plus le fait d'être concerné par l'ennemi qui est mon ennemi aussi, parce qu'en général sur les reportages je suis concerné en tant qu'être humain, parce qu'on assassine des hommes devant moi. Mais là, d'un seul coup, c'est des gens qui sont venus chez moi, dans mon pays, mettre en danger à la fois la vie de mes camarades, de mes concitoyens, mais aussi de notre façon de vivre. C'est-à-dire qu'ils contestent notre façon de vivre. La musique, l'alcool, la liberté d'expression, enfin, etc. Donc là, ça complique les choses, parce que d'un seul coup, mon appareil photo peut s'apparenter à un flingue.
Vous êtes partie prenante, en fait.
Bah oui, je suis partie prenante. Malgré moi, je suis partie prenante et je sens une rage quand je vois ces prisonniers ou que je vois les résultats des bombardements et des combats où ils mettent sciemment en avant leurs civils. Par exemple, à Baghouz, un des derniers réduits organisés en Syrie, ils ont la coalition arabo-kurde aidée par les Français, les Américains. Proposer tout le temps la reddition. Les types refusaient. Quelques civils s'échappaient en disant qu'on leur tirait dessus quand ils essayaient de fuir. Leurs propres camarades leur tiraient dessus. Il n'y avait pratiquement que des étrangers parce que tous les locaux de Daesh avaient rejoint leur famille et avaient quitté les rangs. Donc c'était toutes les troupes étrangères de Daesh, famille comprise, qui étaient coincées en fait dans un cul-de-sac. Mais les irréductibles empêchaient les civils de fuir. Et donc, il y avait des assauts qui étaient organisés par la force arabo-kurde, qui tombaient sur un os, et donc qui demandaient à l'aviation d'intervenir. Les Français et les Américains bombardaient. Ça tuait pas mal de civils, même si on fait attention. Et les gens de Daesh filmaient exprès ça. Alors, ils mettaient les civils au-dessus, dans des tentes, et eux, ils creusaient, ils se mettaient en dessous. Mais ils laissaient les femmes et les enfants au-dessus. Et ça faisait partie de leur philosophie de combat. J'ai trouvé ça dégueulasse, quoi. C'était surtout que des femmes participent à ça, quoi. Enfin, il y avait quand même des femmes qui avaient des esclaves sexuels dans leur famille, quoi. Ça a changé, effectivement. Sans ça, c'est toujours des gens qui se connaissent très bien, qui provoquent un conflit ou sont des gens qui ne se connaissent absolument pas, qui s'entretuent, en fait. Parce qu'en général, les gens qui décident les guerres se connaissent. Et les mecs qui se flinguent se connaissent pas. C'est débile. Enfin, je veux dire, si on y réfléchit comme ça.
Toute l'absurdité de la guerre.
C'est absurde. Ouais. Comme j'ai des proches à la guerre, il faut forcément un con. C'est l'ennemi. Parce que s'il n'y a pas de con, il n'y a pas d'ennemi. Donc, c'est forcément un salopard. Mais en fait, c'est terrible. Parce que si vous prenez, je sais pas, un jeune Palestinien, un jeune Israélien, vous les foutez hors contexte, à Paris, ils vont parler des mêmes choses.
Ils n'ont aucune raison de s'en vouloir.
Aucune raison. Donc c'est très très compliqué, parce que les raisons diffèrent, mais le résultat est le même, quoi, ça n'a pas changé. Alors effectivement, les obus sont plus précis. Enfin, si vous êtes tué, ça change rien. Si, je pense qu'on tue moins de gens. En 14, il y avait des assauts qui faisaient 10 000 morts. Aujourd'hui, avec la technologie avancée, les armes plus précises, les drones, en tout cas les troupes américaines et françaises ont moins de morts qu'avant. Bien sûr, ben, puisqu'on a un moyen de savoir ce qui se passe, mais c'est pas pour ça qu'on gagne, c'est ça le problème. C'est qu'en fait, d'un côté, vous avez une technologie très avancée qui protège les troupes modernes, ils ont donc beaucoup moins de morts. Mais de l'autre côté, vous avez inversement le côté moyenâgeux en réponse qui fait que c'est incontrôlable, on peut pas gagner. On peut contenir, mais si les types se mettent à envoyer des messages en Tchétchénie, ils prenaient des garçons de 10-12 ans, ils écrivaient les ordres, ils leur filaient le papier, il y en avait 10 qui avaient le même papier, il y en avait bien 2 qui arrivaient à destination vivant. Donc les écoutes servaient à rien, les satellites servaient à rien. Et les gens de Daesh, ils fonctionnent comme ça. Hein. C'est des courriers physiques, c'est des codes, mais rien ne passe par radio, par électronique, par voilà. J'ai vu aussi quand les Américains avaient surveillé les Serbes pour pas qu'ils bougent leurs tanks. Bah, évidemment, un tank, c'est une source de chaleur qui est repérable par un satellite. Bah, ils aient avancé les chars avec des bœufs. Vous aviez un tank ultra moderne qui était tiré par une dizaine de bœufs pour changer de position. Donc on revenait au point de départ.
À l'archaïsme
pour lutter contre la haute technologie. Donc finalement, à la fin, ça marche pas. Voilà, aujourd'hui, on essaye de faire la guerre sans mort. Ce qui est absurde. C'est complètement absurde. Je pense qu'on ferait mieux de se servir de ces technologies pour se parler. Mais apparemment, on se parle, mais on s'entend pas. Mais vous imaginez en Syrie et en Irak ce qu'il y a dans le ciel, 24 sur 24. Moi, j'entendais les bombardiers, les jets. Vous avez l'aviation russe, l'aviation américaine, l'aviation française, l'aviation anglaise, l'aviation iranienne, l'aviation israélienne. Tout ça à 1000 km/h avec de quoi annuler un quartier sous les ailes. Imaginez la pression pour les pilotes. J'ai discuté avec eux sur le porte-avions Charles de Gaulle. Imaginez la pression. Ils ont quoi, 24 ans? Ils sont à 1000 km/h. Ils ont qu'une peur, c'est de massacrer des civils, de se tromper de cible. Enfin, peur, c'est pas le mot, mais cette angoisse. Ils ont des ordres, ils ont des informations, des milliers d'informations à la minute. Ils croisent à 1000 km/h des avions ennemis, amis, on sait plus. C'est la haute technologie, oui. Mais au sol, ça reste la même chose. C'est le type qui se promène avec son âne, qui va foutre une mine juste après votre passage. Donc vous savez que la route est sûre, vous vous ramenez le lendemain et vous perdez vos deux jambes. La guerre reste une saloperie, oui.
Merci beaucoup Patrick Chevel. On continuera demain de parler de la façon de raconter ces guerres. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Antoine Beauchamp avec Patrick Chauvel. À voix nue, réalisation Yvon Croisier, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.
Thank you.